Shalom à tous. Que la grâce du Dieu Tout-Puissant soit avec vous. Vous êtes à l'écoute des messages Vie d'Alliance de l'évêque Alexandre Amazé. Message Vie d'Alliance, c'est une chaîne de prédication traitant tous les meilleurs sujets pour affermir votre foi. Avec l'évêque Alexandre Amazé,
continuons donc dans le thème du dimanche. Et vous savez, quand quelqu'un n'a pas envie de changer, il n'aime pas s'exposer à la parole. Mais quelqu'un qui veut changer s'expose à la parole. Elle peut faire mal, mais le plus important, c'est qu'elle te change. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, dimanche dernier, on a parlé de traiter la critique. On a vu la première partie. Aujourd'hui, on va voir la deuxième partie. Traiter la critique. On a lu Nombre 12, versets 1 à 8. On a vu 1 Pierre 3, 10. On a vu Matthieu 5, verset 11. Et nous avons vu un certain nombre d'éléments caractéristiques des personnes qui sont engagées dans de telles entreprises. J'ai dit que l'objectif de notre salut, c'était que nous puissions avoir accès au ciel. Mais le fait d'être né de nouveau seul ne suffit pas. On est né de nouveau, mais il y a des ajouts, il y a des choses que Dieu veut faire pour nous parfaire et faire en sorte que nous soyons qualifiés. Amen. Amen. Et j'ai dit également que aujourd'hui, la critique ou la rébellion en général était une maladie grave dans le corps de Christ et dans le monde en général. Les hommes parlent beaucoup, disent beaucoup de choses, disent n'importe quoi. Et nous avons vu dans 1 Pierre 3, verset 10, un verset très clair. Il dit, si tu aimes la vie et tu veux voir tes jours se prolonger, éloigne ta langue du mal et ta bouche des paroles trompeuses. C'est un avertissement qui est lourd. Ça veut dire que la longévité n'est pas seulement une affaire de je mange bien, je respecte mes parents. Si tu ne comprends pas que il y a des choses, si tu les fais, ça va raccourcir tes jours. Satan va t'encourager à les faire, bien sûr, pour raccourcir tes jours. Et donc, la critique ici, la Bible nous révèle que la critique raccourcit la vie. Ça semble banal, mais c'est la vérité. Pourquoi? Et je l'ai dit dimanche dernier, Dieu hait la critique parce que c'est un totem. Et dans l'alliance, il y a des totems. Et nous sommes en alliance avec Dieu. Et cette alliance est basée sur le sang de Jésus. Il y a des choses que Dieu attend à ce que tu fasses. Et il y a des choses que Dieu attend à ce que tu ne fasses pas. Et dans une alliance, il y a des clauses. Et la critique fait partie des totems de l'alliance. On ne parle jamais d'un supérieur. Parler de son chef est interdit. Et nous avons vu ici dans Nombre 12, versets 1 à 8, le cas de Myriam et Aaron qui ont fait quoi? Qui, à un moment donné, ont pensé que leur fraternité, le fait qu'ils soient frères de Moïse, le fait qu'ils soient parentés à Moïse, pouvait leur donner le droit de dire n'importe quoi sur Moïse. N'oubliez pas que Moïse a quand même fait quelque chose qui était défendu par la coutume. Je vous ai dit, faites toujours attention entre l'esprit de la loi et la lettre de la loi. Donc, c'est vrai que en son temps, dans la coutume juive, tu ne peux pas être juif et marier une femme étrangère. Moïse a décidé de le faire. Ses frères disent non, chez nous, on ne le fait pas. Donc, ils avaient une part de raison. Parce que souvent, ce qui pousse les gens à entrer dans la critique, c'est parce qu'ils ont des raisons. Ils disent non, ce monsieur-là, il a fait ça, ce n'est pas normal. Voilà ce qui est la normale. Oui, mais frère, ce n'est pas tout ce qui est un droit dont il faut se prévaloir. On a vu des gens qui ont des ressources et qui avaient la possibilité, par exemple, de bâtir des villes. Mais, en le faisant, ils ont attiré sur eux la malédiction. Alors que, naturellement, ils pouvaient le faire. C'était son droit de le faire. Alléluia. Mais la malédiction l'a frappé. Donc, ce n'est pas tout ce qui est forcément un droit qui est souvent... Il faut souvent négocier. Même quand c'est ton droit, il faut savoir négocier. Sinon, le droit là peut se transformer. Donc, ils étaient dans leur droit. Leur frère a fait quelque chose qui n'est pas bon. Mais Dieu est venu le soir et Dieu leur dit, vous là, vous êtes qui pour parler de mon serviteur qui est fidèle dans ma maison? Il dit, même si je suscite un prophète parmi vous, c'est un songe. Mais lui, c'est vis-à-vis. Vous n'avez pas le droit de parler de Moïse. Et la Bible déclare, la colère de Dieu s'enflamma contre eux. Vous voyez? C'est terrible. La colère de Dieu s'enflamma contre eux. Beaucoup de gens, je vais vous dire aujourd'hui, échouent dans la vie parce qu'ils jouent avec les paroles. Jésus a dit, les hommes rendront compte de toutes les paroles vaines qu'ils prononcent. Si ta bouche ne peut pas, à un moment donné, se taire, tu cours à ta perte. Tu cours à ta perte. Et frère, aujourd'hui, si on enseigne de telles choses, c'est pour que l'Église devienne meilleure. Est-ce qu'on peut dire amen? Et ce n'est pas une fatalité, parce que si tu as été frappé par cette maladie, parce qu'en fait, c'est une maladie. Les gens qui parlent beaucoup, les gens qui disent n'importe quoi sont malades. Et si cette maladie-là t'a atteint, tu peux guérir. Parce que s'il n'y avait pas de possibilité de guérison, alors c'était grave. Mais je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle, tu peux guérir ce matin. Parce que le sang de Jésus est versé pour que tu sois guéri. Il y a donc de l'espoir. Dis à ton ami, il y a de l'espoir. Nous pouvons devenir meilleurs dans nos églises. Nous pouvons devenir des chrétiens qui marchons dans la loyauté. Je vous l'ai dit ici un jour. La loyauté est le premier business de l'église. Le fondement même de notre salut, c'est la loyauté. Et frère, si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez rien compris dans le christianisme. Jésus n'est pas mort et ressuscité pour que les gens soient des milliardaires, soient... Non! Il est mort et ressuscité, je le dis toujours. Il faut toujours observer bien le christianisme et comprendre les véritables raisons de notre présence à l'église. On n'est pas né de nouveau. Dieu n'a pas fait tout ce qu'il a fait là parce qu'il a vu juste de te rendre riche. Si c'est ça, il a échoué dans le sens où il y a des féticheurs, des adorateurs de soleil, des gens qui font le vaudou et qui sont très riches et plus riches même que des chrétiens. Donc, si il en est ainsi, ce n'est pas donc l'objectif premier de sa venue. Parce que beaucoup de gens viennent à l'église et souvent ils ne savent même pas pourquoi ils sont assis dans les églises. Ils sont là et je te dis, la 80% ne savent même pas pourquoi ils sont à l'église. Vous n'êtes pas à l'église d'abord pour des raisons alimentaires. Vous êtes à l'église d'abord parce que le Dieu qui vous a sauvé a un objectif. Et c'est ce qu'il faut saisir. Et cet objectif-là, c'est votre transformation. Dieu veut des hommes qui lui ressemblent. Il est trop seul. Voilà pourquoi il a fait les hommes. Tu ne comprends pas ça? Il faut commencer aujourd'hui. Il n'a plus envie d'être seul. Il cherche des gens qui seront à son image. Le reste là, tout ça, ça vient avec. La prospérité, l'élévation, Dieu va te donner, ça c'est clair. Mais tout ce qui combat la formation de la nature de Dieu en toi, et c'est ce que Dieu veut détruire, et Satan sait. Vous savez, souvent, les choses que vous faites facilement, ça doit vous donner une indication que Dieu n'aime pas. Quand Satan vous pousse à faire quelque chose beaucoup, là, ça veut dire ça, c'est très important pour lui, pour vous arrêter. Et la critique, les paroles vaines, c'est des choses qui sont dangereuses. J'étais surpris quand j'ai vu Jésus dire, les hommes vont rendre compte de toute parole vaine. Une parole vaine, c'est quoi? C'est toute parole qu'un homme prononce qui n'accomplit pas la volonté de Dieu. Tout ce que tu dis qui n'accomplit pas la volonté de Dieu est une parole vaine. Donc ça veut dire, ça ne vaut même pas la peine de le dire. Est-ce que quelqu'un peut dire encore amen? Le temps de changer nos églises et d'amener les chrétiens à être des véritables enfants de Dieu qui marchent dans la loyauté les uns envers les autres. Et ce que je vous dis n'est pas forcément pour l'église. Dans vos services, partout où Dieu vous dépose, soyez fidèles. Marchez dans la loyauté vis-à-vis des autres, des amis, des gens dans le service. Ne cherche pas à bâtir ta réputation sur les larmes des autres. Ne cherche pas à bâtir ton avenir sur la chute des autres. Tu parles. Viens quoi, pasteur? Moi, je ne critique pas, hein. Mais je veux simplement dire, qu'est-ce que tu fais là, c'est quoi? Je veux te dire quelque chose, mais en tout cas, moi, je ne veux même pas critiquer quelqu'un, mais je te dis que, fais attention. Et ils commencent, et ils vont empoisonner. Tu as vu le monsieur là? Tu as vu ça? Et ils détruisent d'autres pour espérer monter. Si tu bâtis ton succès et ton élévation en t'appuyant sur les autres ou en détruisant leur vie, Dieu va te descendre. Amen. Tu ne vas pas durer, je te dis. Et si tu es dans ce cas, tu es assis là, il faut vite te repentir et prie Dieu. Viens me voir après le culte. On va voir comment gérer l'affaire, parce que c'est sérieux, hein. Non, si tu as pris une position d'autorité quelque part dans ton service, mais tu es conscient que tu as descendu quelqu'un pour prendre sa place, il faut venir me voir. Sinon, il y a 1000 qui vont te descendre. Mais pour toi, là, ce sera trop grave. Parce que la moisson est toujours plus grande que la semence. Frère, Dieu peut t'aider, n'a pas besoin de détruire quelqu'un. Et il faut que les chrétiens comprennent que la vie chrétienne, là, c'est tout. Tu n'as pas besoin de critiquer quelqu'un, même si on dit compétition de dossier. Ok, tu as prié, tu dis, tu es un enfant de Dieu, tu as mis ton dossier. Quelqu'un met son dossier dans ton pied, son dossier. Est-ce que tu es sûr que... Et tu as venu prendre Biko pour lui témoigner, Jésus vraiment a fait un miracle. On m'a choisi, on était 20. Mais c'est moi, on a choisi. On ne t'a pas choisi, tu t'es choisi. Dieu peut t'élever. Tu n'as pas forcément besoin de casser quelqu'un pour t'élever. Je dis ça, c'est dangereux. On est des chrétiens, hein? J'espère que tu sais. C'est pourquoi moi, je vous le dis et je le répète. Ce que Dieu m'a donné là, on avance. Si Dieu va en ajouter, on va avancer. Mais, dis que je vais aller trouver quelqu'un. C'est comme une soeur qui vient me voir un jour, elle me dit, pasteur, tu sais qu'il y a des démarcheurs souvent dans l'église. J'ai dit, démarcheurs. Elle dit, oui. Elle dit, après le culte, le gars, il fait le culte avec toi. Et quand il finit, il cible certaines personnes. Et puis, il les approche. Et un jour, ils l'ont approché pour lui dire, non, je viens te voir. Je veux parler avec toi. Tu connais tel pasteur, non? Elle fait, oui. Elle m'a dit de te voir pour voir si tu peux passer le voir. Et c'est dans l'église. Le gars, il est assis là, il est démarcheur. Ça dit, toi, c'est dans la barque que tu veux pêcher. La mer là, quelqu'un s'est débrouillé, il a attrapé ses trois sosos. Et toi, tu es dans ta barque, tu prends ton truc, au lieu de mettre dans l'eau, tu guettes sa barque et puis tu lances ton hameçon dans sa petite barque pour attraper son soso qu'il a pris. C'est de la sorcellerie. Tu es sorcier. Alléluia. Mais oui. Tu es sorcier. Plein de gens qui sont en train de se perdre, qui sont dans le monde, qui cherchent même pas, ils savent même pas où trouver la route. Tu les dépasses. Et c'est. Non, c'est grave. Hein? Je vous assure que c'est trop grave. Et j'ai dit, donc, un certain nombre de choses. J'ai dit, les hommes qui sont dans cette initiative, dans cette entreprise de critique, Ils ont une caractéristique, c'est que c'est des gens qui sont négatifs. Ils ont ce qu'on appelle la négativité. La négativité est une affaire de nature. Et quand ça rentre dans toi, ça, c'est grave parce que ça change ta perception des choses. Tout ce que tu vois, tout ce qu'on te présente, la première chose que tu vois dedans, c'est ce qui ne va pas. Tu ne fais plus d'analyse objective. On te demande, tu es allé, comment le culte s'est passé? Tu dis, ah, c'était bien, mais... Parce que tu... Et c'est des gens qui sont incapables de lever les autres. C'est-à-dire, ils sont tellement méchants et négatifs que exalter quelqu'un, dire que quelqu'un a bien fait, non, c'est trop dur. C'est-à-dire, tout le monde peut travailler, c'est jamais bon. Si lui fait, c'est bon. Donc, quelles que soient les analyses, tu vas faire la chose, dès qu'on lui dit donne ton point de vue, il va dépeindre la chose et puis il va mettre mais. Quand il met mais là, c'est pour détruire. La soeur, bon, elle a chanté, c'est pas mal, mais bon. Sa voix tremblait un peu, tu vois, un peu. Si tu retiens le bon là, ça fait quoi? Si tu es dans ce cas, il faut changer. C'est une maladie, hein, je t'assure. Deuxième chose, je l'ai dit, c'est des hommes, bien sûr, qui ont échoué dans la vie. Donc, ils sont amers. L'amertume fait qu'ils ne peuvent plus rien apprécier. Je t'assure, si tu es comme ça, tu as échoué. Hein? Tu ne peux plus rien apprécier de bon. Ils sont en colère contre tout le monde. Ils sont jaloux de tout le monde. La jalousie est un esprit. Ils sont jaloux de tout le monde. Donc, quand ils voient que tu réussis, il n'est pas question que quelqu'un réussisse à côté de lui. Ça, ce n'est pas possible. Ils sont jaloux des gens qui réussissent. Tu peux faire un effort. Il peut faire un effort. Il va rester à souris jaune. Tu te maries là. On dit, viens féliciter la mariée. Il vient. Le cœur est fâché. Il est fâché. C'est toujours eux. Mais quand il vient comme ça, là, mon frère, et quand il va le faire commenter après, ah, tu n'as pas vu sa robe? Est-ce que tu as remarqué la robe? Non? Quelle robe? La robe de la mariée. Tu n'as pas vu? Quand tu passes à Trècheville, il y a un magasin. On loue ça là-bas. On loue ça. Je connais même la dame qui dépose. Ça là, ils ont loué au moins 20 fois. Je te dis, les gens ils font le malin, mais... Que Dieu change. Allez, il faut qu'on change. Hein. Si on veut aller loin avec Dieu, il faut un changement. Dis amen. Parce que c'est-à-dire, on moissonne toujours ce qu'on sait, mais... Et si tu passes ta vie à détruire les autres, à parler mal, à critiquer, à insulter les gens, il y a des affaires qui ne te regardent pas. Je vous ai dit, dans le royaume de Dieu, on ne fait rien sans onction. Pour faire une tâche ou pour réussir quelque chose, il te faut l'onction pour. Et là où tu n'as pas l'onction pour et tu essaies de faire la chose, ça peut te détruire. Voilà pourquoi les deux fils d'Aaron sont morts, Nadab et Abihu. La Bible dit, ils ont fait quoi? Leur papa n'était pas là et ils ont pris le sacrifice pour dire, on va faire le sacrifice. Mais sûrement, Aaron a enseigné à ses fils que vous êtes mes successeurs. Vous êtes les potentiels sacrificateurs après moi. Donc, c'est des gens qui devaient être sacrificateurs après Aaron. Mais, Aaron n'était pas encore mort et le transfert du sacerdoce n'avait pas encore été fait. Donc, ils n'avaient pas ce qu'il leur faut pour faire le sacrifice. Ils ont fait un sacrifice sans l'onction pour. La Bible dit le feu est sorti, ça les a détruits. Il y a des choses qui ne te regardent pas. Hein. Je dis, c'est ton leader ou ton pasteur qui est établi ou qui a l'onction pour te juger. Ce n'est pas le contraire. Les gens parlent beaucoup dans la vie. Là, sortez de ça. Je dis, ça raccourcit la vie. Parler de pasteur, ça raccourcit la vie. Ils sont ceux qui sont laissés-les avec le Dieu qui les a appelés. Prends l'engagement que tout le mois d'avril qui va venir là, une seule parole vaine, mauvaise parole, critique de quelqu'un ne sortira pas de ta bouche. Tu parleras pas mal de ton frère, de ta soeur, tu diras pas des choses. Non, parce qu'il y a des gens qui sont devenus des véhicules d'information. Si on veut faire partie d'une information, il faut passer par eux. Dès qu'il a ça, ça passe. Leur vie, c'est un véhicule. Ils transportent information non vérifiée. Ça ne peut pas être possible. Et vous êtes des chrétiens, vous êtes comme ça. Comment l'église prendra-t-il son envol? De quelle église vous espérez? Avec de tels comportements dans l'église. Ça se critique entre soeurs. Même, est-ce que vous savez que même les gens sont assis, hein, pendant que le pasteur prêche. Souvent, il y en a un qui vient me voir pour dire, pasteur, vraiment, les gens, ils sont vraiment mal éduqués. Ils sont assis comme ça, en plein culte, pendant que tu prêches, ils commentent en même temps. Ils commentent, ils rejettent, ils critiquent en même temps la parole en direct par satellite. C'est-à-dire, pour eux, là, ils font pas ça à la maison. Parce que je te dis, les gens qui sont comme ça, là, je vous l'ai dit, c'est des gens qui sont des politiciens. Parce que les politiciens ont une caractéristique, c'est qu'ils veulent toujours des supporters. Voilà pourquoi ils battent campagne. Pour que les gens adhèrent à leurs idées, leurs idéaux. Donc, les critiqueurs sont des politiciens dans le sens où ils ont des idéaux. Et donc, quand ils viennent, ils scannent l'église, passent l'église au scanner. Et puis, leur truc là signale pour dire qu'il y a quelqu'un ici qui est une terre favorable. Donc, ils se connectent et ils forment des clans. Et à un moment donné, tu vas voir que ces clans-là, ils se déportent dans des sphères de l'église où ils s'assoient. Et quand ils s'assoient comme ça, là, ce n'est pas juste parce qu'ils s'aiment bien, ils sont amis, oui, mais c'est pour parler. Ils ont les mêmes points de vue. Vous avez vu ce qu'il vient de dire là? Ça, il parle de nous, mais ce n'est pas grave. Tu vois, non? Et puis l'autre fait quoi? L'autre fait quoi? Laisse-le. C'est pas grave. Dans tous les cas. Tu es un culte dans un culte. Et ça parle. Et tu sais pas. Le danger, c'est que les gens n'ont pas conscience que nous sommes même dans la présence de Dieu. Et qu'il y a des choses qui sont dangereuses dans la présence de Dieu. Parce qu'on connaît le sort d'Ananias et Saphira qui ont tenté, dans la présence des apôtres, de mentir. Ils ne se posent même pas la question, je suis à l'église, ça je vais attendre, quand je sors, je vais te dire ça. Mais ils ne se disent pas que même en disant là, il peut avoir quelque chose et puis je pars maintenant. Je vous assure, on va vers la fin des temps, et la Bible dit, vers la fin des temps, Dieu va restaurer sa gloire, de telle sorte qu'il y a des gens qui peuvent tomber dans l'église et puis c'est fini. Il ne faut pas venir faire n'importe quoi. Hein? Tu es à l'église. On ne s'assoit pas à l'église pour critiquer, pour taper, pour dire rien. La dame la passe. Regarde le gars là. Tu as vu comment il marche. Mais si tu as vu quelqu'un qui n'est pas bien habillé ou bien qui est mal fait, c'est ton frère. L'amour couvre une multitude de péchés. Avant même qu'elle n'entre, va avec amour. Je ne te dis pas de venir avec tout ton air de pharisien pour dire. Parce qu'il y a des pharisiens. Alléluia. Tu peux parler doucement pour dire. Ma soeur, vraiment, excuse-moi, hein, je voulais juste te dire que, tu vois, ton truc là n'est pas bien fait. Prochainement, il faut faire comme ça parce que, bon, tu lui parles avec amour, elle te dit merci, mais tu la laisses partir avec. Elle ne sait pas. Et puis, tu es là, tu ris. Dimanche prochain, elle va refaire la même chose. Tu ris, tu dis, mais ces gens, c'est des païens. Mais toi, tu sais, tu prends pour parler au lieu de lui dire. Tu es méchant. Alléluia. Mais c'est ce qu'on voit. Voilà pourquoi la gloire de Dieu est en train de partir dans les églises. Parce que les gens sont. C'est des hypocrites assis les uns à côté des autres. C'est-à-dire, il est assis à côté de toi et puis il te critique, il parle mal de toi. Il dit, cette dame, elle se prend pour qui? Elle est partout. On la voit ici, on la voit là. Elle veut devenir quoi même dans l'église? Elle n'a qu'à prendre même le pasteur si elle veut, on s'en fout. C'est-à-dire que. Et puis, tu la vois, bonjour, ça va. C'est de l'hypocrisie. Et Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas, hein, je vous dis. Si vous ne changez pas, Dieu ne pourra rien faire pour vous. Parce que le même Dieu qui s'enflamme quand les gens parlent comme ça, si Dieu s'enflamme contre toi, quelle bénédiction tu espères recevoir de lui? Toutes tes bénédictions avortent. Et tu es là, tu te dis, mais Seigneur, je cherche ça là depuis longtemps, je ne trouve pas. Tu ne trouveras pas ça parce que à chaque fois que tu es sur le point de trouver, tu entres dans l'hypocrisie, dans les calomnies, dans les paroles bizarres, et Dieu se fâche contre toi. Donc, ta bénédiction est retardée. Retardée. Alléluia. Il faut supporter quand les autres réussissent. Il faut que Dieu te délivre ton cœur. Quelqu'un réussit, il faut acclamer le Seigneur pour lui. Il faut dire, Seigneur, merci pour cet homme. Je prie qu'il soit encore plus grand. Et puis vraiment sans ressentiment. Mais c'est un travail que tu dois faire sur toi-même. C'est un véritable travail. Je t'assure. Il y a des gens qui sont fiers quand ils attendent des nouvelles. Ça dit, s'il attend une mauvaise nouvelle, sa journée est gagnée. Il a ça comme ça, il a ça comme dans son ventre, comme s'il y a un bébé qui va sortir. Hey, je cherche les bonnes personnes. Il dit, lui là, non, ce n'est pas un gars qui est bien. Si je lui dis, dans tous les cas, ça ne va rien lui apporter. Cherche quelqu'un qui va vraiment être sous le choc. Puis cherche. Tu sais ce qui se passe dans la ville. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Il appelle ça bonne nouvelle. Un truc bien, un scoop. Et puis il dit, tu vois, je te dis. Hein? Mon Dieu, puis il lance. Mais souvent, c'est sur rien du tout. Hein. Sur rien du tout. Sur des on dit. Il paraît que lui là aurait dit. Lui là aurait pensé. Comment Dieu peut te bénir? En fait, je veux t'interpeller pour que tu réfléchisses et que tu prennes la décision aujourd'hui de ne plus être le véhicule par lequel ça passe. Et c'est des gens qui sont des agents du diable. Pour diviser. Parce que quand un homme fait de la politique ou cherche des adeptes pour que les gens pensent comme lui pour gérer certaines choses, qu'est-ce qu'ils font? Je vous ai dit, ils ont toujours un culte dans un culte. Ou ils déportent le culte à la maison. On m'a raconté l'histoire d'une dame. Quand elle finit comme ça, c'est pas ici, quand elle finit un culte, comme elle a mauvais comportement, si le message et aller dans une certaine direction, et ça l'a touché. Étant donné qu'elle vit avec les gens de sa maison, certaines personnes, donc les gens, c'est souvent, les gens se disent, ah, le message aujourd'hui là, hein. Donc quand elle va à la maison, elle fait toujours un deuxième culte. Mais le deuxième culte qu'elle fait, c'est qu'elle prend toutes les parties qui ont été contre elle là, et puis elle donne un autre évangile à la maison. Non, c'est vrai, ils ont dit de ne pas critiquer, mais ce que moi je fais, ce n'est pas de la critique, c'est de les analyses. Donc elle va réévangéliser les gens de sa maison là pour garder sa notoriété. Amen. Ou quand elle ne trouve pas de verset pour détruire, elle entre dans la critique. Oh, lui il aime trop ça. C'est de nous, pendant tous les cas, il n'a qu'à parler. La vie là, la Bible dit, retiens ce qui est bon pour toi et puis le reste là. Donc, et puis elle va raconter des trucs. Elle fait ça tout le temps. Tout le temps. Un jour, il y a une petite dame de chez elle qui est venue me dire, il faut parler à la dame là. Tu ne la connais pas bien, mais il faut lui parler parce que ça nous met mal à l'aise. C'est vrai, on est chez elle, donc elle fait tout. Mais ce comportement nous gêne parce que nous, on connaît, on n'est pas bêtes. On sait ce qui est droit. Parce que les gens, ils ne sont pas bêtes. Tu peux les tromper jusqu'à un moment donné, là, les yeux s'ouvrent. Oui? Vous comprenez? Donc, il ne faut pas transporter les cultes à la maison pour aller refaire le culte. On dit le message aujourd'hui, tu sais c'est quoi? Et puis, ils vont commencer à rire, ils prennent les points où on a parlé de quelqu'un, aujourd'hui là, ils ont frappé le gars là, lui c'est sympa qu'on t'aide. Il dit, ah, ils ont tapé les gens qui aiment, mais pourquoi les gens, et ils vont refaire le culte, ou ils vont organiser des prières à la maison, et puis sujet de prière, prions pour le pasteur, que Dieu lui donne de l'onction. Ça dit, ça, c'est un message qu'il donne aux gens qui sont avec lui. Il n'a plus l'onction, vous n'avez pas remarqué. Vous voyez, et tout ça, ça fragilise l'église parce que là où tu es, l'objectif de Dieu dans ta vie, c'est quoi? C'est de t'élever et faire de toi une influence pour que à partir de toi, plusieurs viennent à lui. Maintenant, si toi, partout où tu es, tu calomnies ton église, tu calomnies ton pasteur, tu parles, ah oui, ils ont fait ça aujourd'hui, je n'ai pas aimé. Pourquoi ils ont traîné qu'à 23 heures? Pourquoi ils sont restés qu'à minuit? Oh, vraiment, tu parles. Mais les gens qui sont avec toi là, qui te regardent, tu es le modèle, c'est toi, ils ont suivi, automatiquement, ces gens-là ne peuvent plus être lucides dans leur jugement. Donc, au lieu de les fidéliser, tu leur donnes d'être, tu vois, éloignés. Donc beaucoup de gens, par leur propre comportement, ils éloignent certains frères de l'église. Certaines personnes étaient fidèles. Dès qu'ils t'approchent, ils deviennent ton ami, ils commencent à ne plus être fidèles dans l'église. Il y a problème. Alors que l'objectif, quelqu'un entre dans ta vie, s'approche de toi, au lieu, s'il était loin, qu'il devienne plus proche. Est-ce qu'on peut dire amen plus fort? Voilà ce que Dieu veut pour vous. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Maintenant, comment traiter ce problème? On va voir un certain nombre de points. Parce que c'est ça le plus important. Numéro 1. Tu dois admettre et reconnaître devant Dieu que tu es malade. Tu sais, ce qu'un homme ne reconnaît pas, parce que tu vois, si quelqu'un discute pour dire, ah, moi je critique personne, moi dans tous les cas, je fais mes analyses, vous pouvez dire ce que vous pensez, c'est votre problème. C'est un homme qui ne changera jamais, parce qu'un homme qui n'est pas prêt à reconnaître qu'il parle trop et qu'il dit souvent des choses qui n'ont même pas leur place, il critique les gens, il raconte sa vie et qu'il est malade, il ne reconnaît même pas. Est-ce qu'on peut soigner quelqu'un qui n'est même pas d'accord qu'il est malade? Non, aucun médecin ne peut faire un diagnostic pour dire, tu es malade, alors que tu dis, moi je ne suis pas malade. Hein. Le gars te passe au scanner, il voit que tu as cirrhose, ou bien tu as, comment on appelle ça, ulcère. Tu dis, moi je n'ai pas ulcère. On dit, mais tu ne sens pas des douleurs? Tu dis, non, c'est le piment qui me brûle. Nous on est comme ça dans notre famille, je dis, moi je n'ai pas ulcère. Le gars il ne peut rien faire pour toi. Vous comprenez? Donc c'est important de reconnaître d'abord. La reconnaissance est le commencement du salut. Je reconnais que j'ai un problème. Je parle trop. Je suis incapable de retenir les informations qui viennent à moi et j'ai cette tendance à divulguer des informations même quand elles ne sont pas vérifiées. Alors, j'ai un problème. Seigneur, j'ai un problème, je reconnais. Et quand tu reconnais, la délivrance a commencé. Amen. Amen. Alléluia. Lis-moi le psaume 51, verset 1, verset 5. Le psaume 51, verset 5, il dit quoi?
Psaume 51, verset 5. Mm-hmm. Car je reconnais mes transgressions. Mm-hmm. Et mon péché est constamment devant moi.
Oui.
J'ai péché contre toi seul. Mm-hmm. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux.
Voilà, c'est bon, on va s'arrêter là. Amen. Donc il dit, je reconnais mes transgressions. Et mon péché est devant moi. C'est clair que je suis quelqu'un, je parle beaucoup. Je parle, je critique facilement, j'aime pas voir, je suis dans l'insécurité quand les gens réussissent à côté de moi. Il y a des gens comme ça, dès qu'ils voient des succès, ils sont dans l'insécurité, ils paniquent de voir d'autres réussir. Mais si on vient annoncer que, ah, tu n'as pas eu le bac, il va pleurer. Mais en fait, il attend ce que les nouvelles qui viennent après là, c'est Paul n'a pas eu aussi, Pierre n'a pas eu. Et là, il commence à ne plus pleurer. Il dit, ah, donc ce n'était pas moi seul. Ça veut dire que c'est pas moi qui ai mal travaillé, le truc était difficile. Parce qu'il refuse. Tu sais, il y a des gens. Pierre n'a pas reçu. Et quand il apprend que les autres n'ont pas reçu, il va dire, frère, je vous assure. Tu sais que Pierre n'a pas reçu aussi. Même Paul aussi n'a pas eu. Même la soeur, là, il paraît même qu'elle a échoué. Pour elle-même, il paraît qu'elle est descendue jusqu'à même. On a cherché même à l'aider, on n'a pas pu. Moi-même, c'était un. Un point qui manquait. C'est-à-dire, il est dans l'insécurité. Si tu es comme ça, tu es dans l'insécurité de voir les autres grandir, les autres réussir. Et je vous dis, même dans le milieu pastoral, là, on n'en parle pas. C'est immense. C'est immense. Beaucoup de gens n'aiment pas voir les autres réussir. Quand il apprend que tu as un programme comme ça, son cœur bat. Mais j'ai dit, mais si c'est comme ça, un jour, ton cœur va tomber. Parce qu'on va en faire et en faire les différents programmes. Amen. On va tellement faire que si tu es jaloux de nous voir progresser, là, il faut que tu pries Dieu parce que tu risques de tomber. Hein? Tu dis, ah, j'ai acheté ça. Et les femmes, elles parlent beaucoup. Et tu es avec une copine, tu ne la connais même pas. Tu sais que mon mari vient d'acheter ça encore pour moi. Ah. Et puis quoi? Non, quand il est arrivé de New York, là, il m'a envoyé, tu sais les trucs. Hey, ma copine, j'ai dit, il est vraiment bien. Non, ok. Il est bien, ton mari, il est vraiment bien. Il est toujours avec toi, non? Si mon mari, non, il ne peut même pas prendre une décision sans m'informer. Quand il fait quelque chose, il me dit, Ça, c'est bien. Quand il fait quelque chose, il te dit. Elle réfléchit. Comment tu vas devenir comme elle, là? Pour que vous deux, vous soyez dans le même camp, là. C'est dans ça qu'elle pense. Maintenant, le jour où tu lui dis, hé, hey, aujourd'hui, je ne comprends pas, il a fait le truc, il ne m'a même pas dit. Et puis, vraiment, c'est des palabres. Je... Il m'a dit, tu sais, depuis que tu me parlais, je ne voulais même pas te dire. Tu sais, les hommes, il ne faut pas leur faire confiance. Où tu es là? Tu n'es même pas obligé même de l'écouter aussi. Là, là, de façon il fait là, laisse-le. Je suis là, on est ensemble, non? Parce qu'elle se retrouve maintenant. Elle a retrouvé quelqu'un qui... soit lent à parler. Ceux qui sont lents à parler réussissent leur vie. Donc la reconnaissance est l'élément numéro un. Reconnais ton tort, reconnais. Là où il n'y a pas de reconnaissance du tort, je suis ça là, je sais. Moi je parle beaucoup, je critique. Il y en a qui le font un style, mais c'est des grands critiqueurs. Tout cela, Dieu veut te délivrer ce matin. Deuxième chose, quand tu as reconnu que tu es dedans, il faut demander pardon à Dieu et exige sa miséricorde. Sans sa miséricorde, tu ne t'en sortiras pas. Le psaume 103, verset 3. Lis-moi ça. 103, à partir du verset 3, c'est David qui parle. Il dit quoi?
Il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, mm-hmm. qui guérit toutes tes maladies.
Donc, c'est Dieu qui pardonne. Donc, c'est à lui qu'il faut demander pardon d'abord. Tu dis, Seigneur, je reconnais, je demande pardon parce que ce que j'ai fait n'est pas bon. Et je vous ai dit ici un jour que l'affaire, moi quand je vous parle pour l'église et pour la vie. C'est-à-dire, même dans vos services-là, les patrons que Dieu vous a donnés, ils ne sont pas parfaits. Hein? Mais si Dieu les a choisis pour que ce gars-là soit ton patron, il peut avoir des défauts. Mais ce n'est pas ta responsabilité de parler de lui. Parce que la faveur ne quittera jamais son cœur pour se tourner vers toi. Sous son autorité de patron, rien de bon n'arrivera à ta vie si tu le critiques. C'est spirituel. J'ai dit c'est spirituel. Tu es sous un responsable au bureau. Derrière son dos, tu fais les choses. Tu vas voir. Tu vas voir si tu auras promotion un jour. Il va vouloir te défendre, mais quelque chose va lui dire, ce n'est pas la peine. Il sera froid quand il va s'agir de te défendre dans des dossiers. Mais quand il est froid comme ça, là, ce n'est pas parce qu'il a envie d'être froid. Il veut bien t'aider, mais il n'arrive pas. Parce que tu poses des actes qui ont créé un environnement ou une atmosphère qui ne fait que descendre sur toi ou te donne ce que tu as semé. La faveur ne vient pas par hasard. Hein. Quand tu vois quelqu'un qui te fait grâce, là, c'est parce que quelque chose s'est passé. Parce qu'on décide d'aider les gens. Non, on ne décide pas comme ça. Quand tu vois quelqu'un, il entre dans ton cœur, ça veut dire que Dieu a fait grâce. Donc, demande sincèrement pardon à Dieu. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point important, c'est que va confesse ta faute. Confesse également ta rébellion là contre ceux contre qui tu as parlé. Tu dis, pasteur, ça là c'est difficile. Jacques 5, verset 16, lis-moi. Je dis Jacques 5, verset 16. Oui. Rapidement.
Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris.
Amen. Il dit confessez les uns aux autres. Ça veut dire que ce n'est pas anti-biblique de parler à quelqu'un, de lui dire j'ai fait ça contre toi, j'ai pas bien fait. La personne que tu as descendue là, tu dois, quand tu as demandé pardon à Dieu, aller voir la personne pour lui dire, à un moment donné, j'ai fait des choses contre toi. J'étais critiqué. J'étais, c'est moi, ce malheur qui t'est arrivé au bureau là. C'est moi. Pardonne-moi. C'est là, là. C'est dur, non? Si tu vois que c'est aussi dur, il ne faut pas faire. Parce que si tu fais, tu vas passer par là. Si tu ne passes pas par là, tu vas voir. Tu as critiqué quelqu'un, tu as torpillé quelqu'un dans l'église. Quand on finit le culte, va voir le frère ou la soeur, maintenant même. Je te dis, hein, la pratique commence maintenant. Tout le monde dit la pratique, c'est maintenant. Tu seras surpris du nombre de personnes qui vont venir te voir pour dire « Je t'ai insulté, j'ai dit ton nez était coucou. » Tu dis « Quoi? Tu m'as insulté ?» Moi, je suis sûr que si elle dit ça, tout de suite, il y a peut-être la moitié de l'église va venir vers moi pour dire « Pasteur, pardon, pasteur, pardon. » Les gens me critiquent toujours. Je sais. Je sais. Je sais même pas ce que je fais, mais on me critique. Pourtant, moi, je te veux du bien. Tu me critiques. Je ne t'ai jamais critiqué, tu me critiques. Donc, ce point important, la personne que tu as calomniée là, il faut aller voir la personne. Parce que nous sommes ici dans un processus de guérison. Et c'est des étapes qui mènent à la guérison. Si tu sautes une étape, tu peux ne pas être guéri. Ton affaire de critique ne va pas te lâcher, hein? Ça va te pourrir la vie. Dès que tu as une information, c'est comme s'il y a du feu derrière toi. Tant que tu ne parles pas, tant que tu ne dis pas quelque chose pour, tu n'es pas en paix. Donc, dans comment guérir de la critique et de toutes ces mauvaises choses que nous avons acquises. Depuis le monde, hein, ce n'est pas seulement dans l'église. Les gens parlent, ils racontent leur vie, ils critiquent. Il y a des gens qui vivent de la critique. Ils vivent des mauvaises rumeurs, des nouvelles. Pendant la crise, là, on était tous saoulés ici. Tout le monde était saoulé. Chacun marchait comme ça. Sur le plan spirituel. On marchait comme ça. Tellement ça dit que ça balance des critiques qui ne sont pas fondées. Lui là se lève, il a rêvé, il met ça en critique. Il envoie un SMS. Ils sont à la porte. Tu dis, quelle porte, oh Seigneur Jésus. C'était dur. Que Dieu délivre la Côte d'Ivoire. Critique. Fausse rumeur. Que la Bible dit, si tu aimes la vie, préserve ta langue du mal et des paroles mensongères. C'est pas bon. Alléluia. Ne critiquez pas. Et moi, je vous ai dit ici à l'église, si tu es membre de cette église, il ne faut pas entrer dans la critique. Même les autorités établies là. Je ne veux pas voir quelqu'un ici parler mal du président Ouattara. Vous êtes le peuple sur qui Dieu m'a établi. Moi, je vous dis la vérité. Il est ce qu'il est là. Laissez-le tranquille. C'est Dieu où il est. On dit aucune autorité n'est établie sans que Dieu l'institue. Frère, Dieu a ses voies que les hommes ne maîtrisent pas. Il est président. Respectez-le. Arrêtez de parler des gens. Même s'il est mauvais, là, c'est Dieu seul qui peut le transformer. Priez pour les gens. Si quelqu'un pose des actes que vous n'aimez pas, dites Seigneur, je prie que tu donnes l'intelligence, la sagesse de bien poser les actes. Mais ne le critiquez pas. Il n'a pas besoin de critiquer quelqu'un parce que tes critiques n'arrangent rien du tout même. Au contraire, ça te détruit parce que ça coupe, ça te prive de la grâce de Dieu. On n'est pas obligé d'aimer quelqu'un, mais on n'est pas obligé de le critiquer non plus. On peut être, on n'est pas amis. Non, on ne s'insulte pas. On se respecte. Vous n'avez jamais vu ça? Les grands hommes, c'est ça. Vous allez voir les grands hommes dans la vie, quand quelqu'un est grand, il respecte ses adversaires. Quand tu vois quelqu'un qui calomnie l'adversaire, qui veut le tuer là, c'est un petit. Surtout quand quelqu'un est grand, on n'est pas d'accord sur les idées, mais on se respecte. C'est ça, la grandeur. Mais les chrétiens, oh, Dieu faut le tuer, Dieu faut faire comme ça. Si Dieu était comme, pensait comme toi, il y a longtemps, il a tué tous les... Il y a plein de gens même qui n'existaient plus. Mais Dieu n'est pas comme toi. Dieu veut que le pécheur se répande. Mais il ne veut pas la mort du pécheur. C'est si le pécheur refuse de se repentir qu'il va mourir de ses propres voies. Ce n'est pas Dieu qui va le tuer. Meurt de ses propres voies. Parce que Dieu n'a pas envie de tuer quelqu'un. respectez dans vos services les patrons que Dieu vous a donnés. Respectez-les. Que ton patron dise, mais attendez, mon ami, tu es dans quelle église même? Quand je regarde ton comportement au boulot ici, là, tu dois être quelqu'un de bien élevé. Et qui demande ton église et qu'il vienne à cause de toi s'asseoir un jour à l'église pour dire, si mon agent là est comme ça, là où il va là, ça doit être bon. Je vais pas t'y voir. Mais à cause de toi, dans le bureau, personne n'a envie. Même à cause de ça, tu caches ta Bible. Parce que tu, au bureau, on t'appelle Bob. Bob. Ça dit, tu n'es pas le chrétien au bureau. Tu viens à l'église, mais dimanche, au bureau, tout le monde t'appelle Bob. Parce que là-bas, tu as un autre comportement. Comportement de Bob. Tu respectes personne. Tu ne respectes pas l'autorité. Tu parles contre l'autorité. Tu dis que tu es chrétien. Quand on est chrétien, on ne parle pas de son autorité supérieure. C'est sacré. Le chef, il est sacré. Est-ce qu'on peut dire amen?
Amen.
Et Dieu, je vous dis, se tient toujours pour le chef. Même quand il a tort, pour te combattre. Et puis après, il règle ça avec le chef. Il ne faut pas te mettre entre eux. Dieu est son chef, laisse-les. Tu te mets au milieu, c'est toi, Dieu va frapper. Et puis après, il va venir parler le chef pour dire, tu as fait ça là, c'est pas bon, je ne suis pas content. Mais le temps de régler le compte du chef, toi, il y a longtemps, on t'a frappé. Donc, tu dois aller voir la personne. Tu as fait tomber quelqu'un, va voir la personne, dis pardon, je t'ai fait tomber. Repends-toi, confesse ton péché à ton frère, à qui tu as fait le mal. Là. Quatrième chose importante dans le processus de la guérison de ça, tu dois maintenant travailler, quand tu as demandé pardon là, tu dois travailler pour dissoudre ton groupe et amener les autres à la repentance. Les gens que tu as cooptés, les gens que tu as intoxiqués, parce que tu étais dans une relation toxique. Toi, tu es arrivé à la lumière. Quand tu arrives à la lumière, tu ne laisses pas les autres dans les ténèbres. Mais tu dois maintenant retourner vers eux pour travailler pour qu'ils reviennent tous à la lumière. C'est très important. On dit, si ton frère a péché, va vers lui pour le ramener à la lumière. Donc, tu dois travailler à dissoudre ton groupe et amener les autres à la repentance. Et leur faire comprendre que vous avez pris le mauvais chemin. Parce que en tant que chrétien, nous avons le ministère de la réconciliation. Lis-moi Ecclésias 4, verset 13. Lis-moi ça. Ecclésias 4, verset 13. Tu peux me lire?
Ecclésias 4, verset 13. Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis.
Ce verset-là, je veux que tu retiennes ça. Mieux vaut un enfant sage et quoi?
Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis.
Qui ne sait plus écouter les avis. Vous comprenez? Ça veut dire que la capacité d'un homme à écouter les conseils, est-ce qu'il lui donne de la hauteur? Donc, va vers ces gens-là et parle-leur. Dis-leur, hé, on avait pris une mauvaise route. Ce qu'on faisait là n'était pas bon. On ne doit plus parler, on ne doit plus critiquer. Mais il ne faut pas dire, ah, laissez-moi. Moi, dans tous les cas. Parce que quand quelqu'un n'a pas envie de changer, il ferme ses oreilles. C'est quelqu'un qui refuse d'écouter les conseils. Dès qu'on vient vers... C'est pourquoi je vous dis, vous êtes dans l'église. Si des gens viennent vers vous et vous donnent des conseils, vous suggèrent des choses, ne prenez pas ça en mal. Parce que souvent, les gens sont blessés. Ah, non, non, non. Comment tu es qui pour venir me dire que ce que je fais n'est pas bon? Si on ne peut pas te dire ce que tu fais n'est pas bon, mais tu es perdu. Tu es perdu. Dans la vie, il est important d'avoir des gens qui peuvent te parler. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que l'affaire de Dieu, là, c'est une affaire de grâce. Ce n'est pas une affaire d'âge. Si quelqu'un, Dieu lui fait la grâce de porter, c'est-à-dire une onction jusqu'à un certain niveau, tu lui dois respect. S'il te dit ça, on ne fait pas. C'est un peu comme un monsieur. Bon, il y a longtemps, je ne sais pas, il y a longtemps, un gars, il y a très très longtemps, il est venu ici, à l'église, faire une prière. Et puis, comme c'est quelqu'un d'un certain niveau, dont je l'ai reçu au bureau. Et puis, il dit non. Je l'ai dit, bon, tu peux aller t'asseoir dans la salle le temps que le culte commence. Il dit non, il veut attendre quand on sort. Allons deux, on sort ensemble. Parce qu'il est chef dans le monde. Les gens de la communication, là. Il va falloir que, il y a pour vous régler vos histoires. Parce que là, c'est de la distraction en direct. Donc, vous savez ce qu'il me dit? Il dit non. On sort ensemble. Il dit ok. Et puis, dans le couloir, il me bloque. Il dit, tu pêches sur quoi aujourd'hui? Bon, fais attention aux histoires de femmes, garçons, parce que je suis venu à ma copine. Authentique. Mais je l'ai vite chassé. Parce que le jour là, de toute façon, j'ai prêché là. Il était fâché comme ça. Parce que si vous comprenez, quelqu'un qui ne veut pas s'améliorer, ne va pas s'exposer à la parole. La parole ne fait pas de mal. Ça peut te blesser, ça peut te toucher. Mais si c'est bon, mieux vaut savoir que voilà le niveau que je dois atteindre. Mais je suis encore ici. Que de ne même pas le savoir. Vous comprenez? Quelqu'un qui sait que voilà sa place, mais il est encore là. Au moins il a ça, un jour il va finir par arriver. Mais quelqu'un qui ne sait même pas où doit arriver. Tu me dis, moi, je l'ai chauffé. Mais oh, je m'en fous. Tu sais, c'est pas toi qui m'as appelé. C'est pas toi qui m'as envoyé dans le ministère. Et puis, je ne suis pas venu au Seigneur parce que j'avais faim. Dieu m'a fait grâce. Il m'a appelé. Non, frère, tu ne peux pas m'acheter. Je lui ai dit ça. J'ai dit, le gars, il est devenu amer, il est parti. Il dit, ce petit gars-là, on ne sait même pas pour qui tu prends. Je dis, que Dieu te bénisse. Mais dans tous les cas, parce que si ça là, tu marchais, c'est fini. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu ne peux plus rien dire. Il va t'acheter. Dis ça aujourd'hui. Quand il est content, dis ça aujourd'hui. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Tu dois être docile au conseil. Ça fait mal, tu dois accepter. Tu dis pas, non, là-bas, on parle trop mal, c'est dur, moi, je quitte là, je m'en vais. Si, comment tu vas changer? Tu vas aller t'asseoir quelque part où on dit, allez, ce n'est pas grave, Jésus est Seigneur. Vraiment, même si tu es sauvé, tu es sauvé. Tu es sauvé, tu es sauvé. Quel que soit ce qui arrive, tu es sauvé. Non, si c'est ça là tu veux, il y en a plein qui peuvent te dire ça. Mais si tu veux arriver au ciel, il faut quand même qu'on te dise des choses claires. Acclame le Seigneur pour ça. Ecclésiaste, tu l'as lu? Proverbe 22, verset 10. Proverbe 22, verset 10. Dis quoi?
Chasse le moqueur et la querelle prendra fin. Les disputes et les outrages cesseront.
Oui, chasse, c'est un commandement. Dis à ton frère, chasse le moqueur.
Chasse le moqueur.
Là où il y a des moqueurs, il faut les chasser. Frère, la moquerie, les gens pensent souvent que c'est juste des affaires. Les gens qui aiment rire beaucoup, ils sont entre eux, ça rit, ça. Mais en fait, ils rient sur quoi? Ils rient sur des choses qu'ils voient. Ils rient sur la façon dont elle a fait sa tête. Ils rient sur pourquoi elle marche comme ça. C'est-à-dire que voilà des gens, leur vie, c'est des moqueurs. Ils racontent leur vie, ils topient. Ce n'est pas bien. La Bible dit chasse le moqueur et quoi? Et les querelles. Là où il y a des querelles, c'est parce que là, il y a des moqueurs. Des gens qui sont tout le temps en train de se moquer des autres, raconter des histoires. Il faut les chasser du milieu de nous. Et c'est ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Si tu fais partie de cette catégorie de personnes-là, il faut te repentir. Sinon, le Saint-Esprit va te retirer. Cinquième point. Il dit... Cinquième point, quand tu as dissous ton groupe, tu as veillé à ce que ces gens-là reviennent à une prise de conscience. Alléluia. Tu dois maintenant décider en cinquième position de sortir de ce que j'appelle de l'esprit d'indépendance et te réintégrer dans la vie de l'Église en te rendant utile. Pourquoi je dis ça? Parce que les gens qui critiquent et les gens qui font ce travail de division, sont des gens qui se soustraient de l'ensemble. Parce que tu sais, là où tu es comptable, tu ne critiques pas. Souvent, quand tu vas voir des gens qui parlent beaucoup et qui aiment beaucoup critiquer, c'est parce que leur responsabilité vis-à-vis de l'œuvre est limitée. Je vois mal Joël venir critiquer quelque chose qu'il est en train de bâtir lui-même. Parce qu'on est ensemble, on fait la chose. Donc si tu deviens un gros critiqueur, finalement, toi, tu critiques qui? C'est-à-dire tu te critiques. Et donc, très souvent, tu vas voir que les gens qui critiquent et qui parlent sont des gens qui font exprès, hein, qui limitent leur responsabilité vis-à-vis de l'œuvre. Même quand tu vas les copter pour dire, viens, on veut t'utiliser, il va te dire, non, bon, on n'est pas encore prêt. Je vois des gens comme ça, quand tu dis, mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Viens. Il dit, non, il est en train de prier Dieu, il n'est pas encore prêt, il sent qu'il va venir, mais bon, hein, prions, on arrive. Il sait ce qu'il fait. Il sait. Donc, ils sont là, ils viendront tous les dimanches, hein. Ils vont s'asseoir comme tout le monde. Mais ils limitent leur responsabilité de telle sorte que quand ils parlent, c'est les autres. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça comme ça. Mais la réunion des femmes là, on aurait dû faire comme ça. Mais vraiment, les femmes là, vraiment. Mais si elle est dans le comité qui prend la décision, elle ne va pas critiquer parce que naturellement, c'est elle qui a décidé avec les autres. Elle va critiquer ce qu'elle a fait. Non! Souvent, c'est des gens, c'est ce qu'eux seuls ils font là qui marche et qui est bon. Donc, quand tu as fini de dissoudre le groupe là, il faut que l'esprit là, l'esprit d'indépendance, parce que je vous ai dit ici un jour il y a longtemps que tu ne peux pas être dans un ensemble et avoir un esprit indépendant. Parce que si tu fais le choix d'être dans une communauté, on appelle ça communauté, église, on est ensemble. Tu ne peux pas être dans un groupe et manifester un esprit indépendant dans le groupe. Ça ne marche pas. Vous comprenez? Si tu n'as pas envie qu'on... Par exemple, si tu travailles à la banque, à la cible, si tu as décidé d'être à la cible, ça veut dire que tu as lu les tests. Tu dois être au bureau, tu dois attendre, il y a ça à faire, tu es membre de cible, on te donne badge cible, tu dois t'habiller d'une certaine façon. Mais si tu n'es pas prêt pour ça là, tu ne peux pas être à la cible et puis tu viens avec SGBCI. Et puis, nous sommes les plus forts. Et puis tu t'assois. Oh frère, on te dit chez nous ici, c'est pas ça. Tu dis non, moi j'ai mon tricot. Et puis j'aime la façon dont les gens de SGBCI travaillent. Donc moi, comme j'étais là-bas avant, leur style, c'est ce que j'applique ici. On dit non, chez nous, il y a un autre style. Il dit non, moi j'applique leur style. Tu es licencié. Donc, dans un ensemble, soit on est dans l'ensemble, soit on n'est pas. Mais tu peux pas être dans un ensemble et puis tu décides de faire des choses comme tu veux. Par exemple, l'église est en train de bâtir. Tu ne te sens pas concerné de près ni de loin. On va construire où? On ne construit pas où? Tu t'en fous. Les affaires là, ils sont où encore même? Tu es membre ou tu n'es pas membre? Donc, je te parle de façon sincère, hein, et tu te reconnais. Parce que le vrai problème, pourquoi les sectes là, les Maïkari, ces organisations mystiques là, sont forts? Ils ne sont pas peut-être 10 millions, mais s'ils sont 200, 300, 400, ils sont solidaires de ce qu'ils font. Et quand ils sont là, ils sont là. Mais l'église évangélique, c'est la seule église où les gens sont là sans être là. Tu ne peux pas être dans une église. Tu viens dimanche matin, tu prends la parole, tu dis je copie la parole, j'aime bien la parole qu'il prêche. Et puis tu finis de prendre la parole, tu boucles ton calepin, tu dis bon, je suis parti. Frère, la parole ne te servira pas. Ou tu vas prendre des mots, mais l'esprit qui est derrière la parole pour qu'elle s'accomplisse là, ne s'accomplira jamais dans ta vie. C'est comme ça se passe. Voilà pourquoi deux personnes peuvent être assises dans le même ministère, exposer la même parole, un s'en sort, l'autre ne s'en sort pas. Parce que l'autre là, son cœur n'est pas bien. C'est une question de cœur. Quel est l'état de ton cœur? C'est très important. Donc, tu ne peux pas manifester un esprit indépendant dans un groupe. Tu es dans un groupe, on dit jeûne et prière. À partir du vendredi, tu dis non, moi j'ai une cellule qu'on avait commencé en 84. Hein? On a marche pour Jésus à Bassam. Donc tu as tes programmes parallèles à celle de l'église. Quand c'est comme ça, ça ne marchera pas. L'église va dans ce sens, toi tu vas dans ce sens. Quand l'église va comme ça, toi tu vas comme ça. Tu ne connais même pas les programmes de l'église. On dit il y a un site internet où tout est, il faut aller, il faut envoyer des messages, ça ne t'intéresse pas. Tu n'es jamais allé sur internet pour regarder le site de l'église, pour apporter même des messages, pour voir des, ce qu'il y a, pour dire, pasteur, on peut améliorer ici, on peut faire comme ça, on peut faire comme ça. Jamais. Les CD même, à la limite, ils sont toujours à la porte là. Tu t'en fous. Tu ne payes même pas de CD. Oh. Tu vis quelle vie? Demande à ton mari, tu vis quelle vie? Et tu vas aller dehors, tu dis, moi, il y a quelqu'un qui m'a vu un jour, je passais. Et puis je crois qu'il avait volé bus. Et puis les contrôleurs ont attrapé un truc comme ça. C'est mon pasteur, c'est mon. J'ai dit, moi, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Tu es qui toi? Il dit, mais pasteur, on se connaît. ABMC, deux plateaux là. J'ai dit, moi. Je ne le. Frère, je vous assure que je ne le reconnaissais même pas. Il y a des gens même qui m'interpellent dans la rue. Bonjour, pasteur. J'ai dit, bonjour, c'est qui? Il dit, ah ben, si, je suis ton fidèle. J'ai dit, ah, ok, sois béni. Mais comment tu peux être fils de quelqu'un? Il ne te connaît pas. Ça ne te fait pas peur? Tu viens à l'église, tu te caches. Ça ne fait pas religieux de se cacher et pour dire, moi, je suis discret. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Que tu sois discret ou pas, on ne te demande pas de venir être discret à l'église. On te demande de venir changer. Et puis de savoir au moins quels sont les gens qui te dirigent. D'être là avec eux pour apporter ce que Dieu a mis en toi aussi. Parce qu'il y a quelque chose que tu as qui peut bénéficier à tout le monde. Et quand on dit programme, tout le monde va. Il y a croisade, tout le monde va. Il y a ça, tout le monde fait. On est dans une église. Il faut que tout ce qui se passe dans l'église soit également ton problème. Mais tu ne peux pas être là, puis ce n'est pas ton problème. Et tu viens dimanche, tu espères que tout soit parfait. Mais quand tout est bien en place là, sincèrement, si tout le monde était comme toi, est-ce que tout le monde, tout est bien? Il y a des gens qui ont décidé d'être là, qui ont décidé d'aligner leur programme ou de faire de l'espace à côté de leur temps pour l'église. Toi, ton temps là, ton calendrier là, c'est travail, business, tout ce que tu veux. Ce qui est normal, mais crée un petit temps pour l'œuvre. De telle sorte que tu puisses avoir un peu de temps pour ton église. Parce que je vous assure que ça fait partie de la vie. Quand Jésus est entré à Jérusalem, il a insisté pour dire, allez, vous trouverez un anneau attaché devant une porte. Mais la porte là, ça veut dire l'anneau avait un propriétaire. Ce n'était pas un anneau n'importe comment qui se promenait dans les rues. L'anneau avait un propriétaire, il était attaché. Il dit, si le propriétaire de l'anneau demande, ça veut dire que chaque anneau, normalement, doit avoir un propriétaire. Il dit, dites au propriétaire, le patron en a besoin. Il ne dira rien. Mais comment Dieu peut t'utiliser si tu n'es pas un anneau attaché? Tu n'as pas de propriétaire. Personne ne peut te taper la poitrine pour dire, ah, bien ici, celui-là, c'est mon fils. Et c'est clair dans sa bouche, et c'est vérifié et vérifiable. Parce que tu es à droite, à gauche, au centre. Tu vois, il y a problème. Et quand tu enseignes ça, on dit oui. Mais en réalité, c'est ça le christianisme. Et si les chrétiens ne reviennent pas à comprendre que quand Dieu t'a envoyé quelque part et tu te sens bien, reste là, intègre-toi, vis la vie de l'église. Et ne sois pas un spectateur, sois un acteur. Amen. Quelqu'un peut dire amen plus fort. Amen. Donc, dans le processus de guérison, tu seras guéri de la critique quand tu vas t'intégrer. Parce que si tu restes à l'écart, tu vas continuer à voir mal ce que les autres font. Donc il faut que tu t'intègres pour que toi-même tes œuvres, là, tu n'auras plus envie de juger tes propres œuvres. Quand tu vois quelqu'un pour dire, non, je me retire, je suis là, mais je suis dans mon coin. En fait, c'est Satan qui veut frapper la personne. Ce n'est pas un bon signe. Je suis dans mon coin. Je suis dans mon coin. Si tu connais quelqu'un, on va lui dire de se repentir. Dieu ne t'a pas sauvé pour être dans ton coin, pour être dans l'ensemble. On est sur quel point? Sixième point. Maintenant que tu as... Tu peux... Lis-moi un truc. Jérémie 48, verset 10. Jérémie 48, verset 10. On va terminer. Il reste deux points, puis on finit. Oui, Jérémie? 48, 10.
Jérémie 48, 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage.
Merci. il utilise deux fois le mot maudit. Il dit maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec quoi?
Négligence.
Et celui qui éloigne son épée du carnage. Tu n'as pas le droit d'avoir une épée et puis de l'éloigner du champ de bataille. Tu n'as pas le droit d'être dans l'église et puis d'être passif. Tu ne fais pas l'œuvre de Dieu. Tu sais ce qu'il a dit? On dit maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu en négligence. Négligence ici, ça veut dire quoi? Tu es là, tu t'en fous. Que ça passe pas, ce n'est pas ton problème. Ça marche pas. Tu viens le dimanche, tu t'assois, tu finis, tu sors. Ils ont balayé l'église, n'ont pas balayé. Ils ont payé courant de l'église. L'église a eu ciment pour construire. Ce n'est même pas ton souci. Toi, l'église n'a qu'à prier pour toi. L'onction va descendre sur toi. Toutes tes affaires vont marcher. Comment tu peux recevoir de quelque chose si tu ne donnes pas la chose? Répondez-moi ce matin. C'est là où tu investis, là, c'est là où tu tires. Vrai ou faux? Tu n'investis pas dans une chose, tu veux que la chose te donne. Ça, c'est du vol. Tu as des défis, mais je veux t'assurer que il y a des défis dans ta vie. Si l'église ne se tient pas pour toi, tu ne peux pas t'en sortir. Hein? Il faut comprendre que ta présence à l'église n'est pas juste une présence. Mais c'est pour ton salut, c'est pour des défis futurs. Il y a des combats, frère. Il y a des combats qui vont avorter dans ta vie parce que les démons vont voir que tu es dans un ensemble fort. Amen. Comment? Et tu fais rien, tu es là, tu t'en fous. L'œuvre avance, avance pas. Je veux que tous ceux qui sont dans cette église, qui se disent que membres de cette église, désormais comprennent que tu ne peux pas être membre et tu ne peux pas être juste un spectateur. Tu dois être un acteur. Tu dois travailler. Tu dois donner tes services. Tu dois. Il y a quelque chose que tu sais faire que personne d'autre ne peut faire, que Dieu a investi dans toi. C'est important. C'est capital. Dans ton service, travaille. Il ne faut pas attendre que ton patron te paye 500 000 francs par mois avant de commencer à travailler. Tu fous rien, on te donne 100 000 francs. Tu dis oui, 100 000 francs c'est petit. Tu fais quoi? Pour avoir 600 000. Tu n'as même pas le niveau. Tu ne travailles pas. Tu es paresseux. Tu fais toujours des bêtises. Et tu espères que ton patron plaide pour que ton salaire augmente. Ça n'augmentera pas. Tu as dit non, le diable utilise mon patron pour me bloquer. Ce n'est pas le diable. C'est toi-même qui es le diable. Frère, je vous ai dit ici, celui qui ne travaille pas, on peut pas accuser Dieu, hein? Travail là, ce n'est pas malédiction. Tu veux que Dieu te bénisse, travaille. Les chrétiens sont trop paresseux. Ils font tout avec légèreté. Il y a un frère ici, un jour, il dit il veut faire business. Et il va voir un des diacres de l'église. Il dit vraiment aide-moi à faire le business. Bon, le diacre, lui, c'est un gars cartésien. C'est un gars qui est à un certain niveau. Donc, il dit ok, je vais investir. Mais quand j'investis dans tes affaires, tu me rends mon capital et puis on voit comment on va faire. Ok. Le gars, il prend l'argent, il va, et puis il vient et trouve le diacre. Et je lui dis, ah, mais le crédit, si tu ne peux pas laisser. Il dit au gars, tu es mon frère, il faut t'amener sur le crédit. Mais attends, c'est pas comme ça se passe. C'est pas parce qu'on est frère. Parce que moi, si je te donne de l'argent pour investir dans ton projet, c'est de l'argent que j'ai pris quelque part. Tu mets tout dans l'affaire des frères. Quelle affaire des frères? On est en business. Et tu penses qu'un monsieur comme ça, là, quelqu'un va l'aider encore un jour? Je vous pose, quelqu'un va l'aider un jour? Il n'est pas sérieux. Quelqu'un te prête de l'argent, tu es capable de rembourser son argent. Tu es disqualifié pour toujours. Et il y a des gens, c'est leur spécialité. Tu leur donnes 1000. Donc, je te rembourse ça maintenant. Et puis après, il fait comme il a oublié. Il cause avec toi, il rit. Tu as honte même de lui demander. Tu dis, hey, Seigneur, vraiment, il y a des gens. Il dit, ouais, mais ça, on dit quoi? Il fait comme s'il a oublié. Manque de crédibilité. Non, si on ne vous corrige pas à l'église, qui va vous corriger? C'est pourquoi j'ai dit aux frères de l'église, ne donnez plus un franc à quelqu'un. Il vient vous voir pour dire, je veux crédit, je veux faire ça. Jamais! Venez me voir d'abord. Si c'est un bon frère, je vais te conseiller. Je connais les enfants là, je les connais. S'il n'est pas bon, je vais te dire, il ne faut même pas trop te presser. Il ne faut même pas aller là-bas même. Parce que si tu fais business à un frère derrière moi, Si ça, c'est chaud. C'est comme avant-hier. C'est, je reçois tout le monde. Quelqu'un vient dans mon bureau, je te vois pasteur. Je ne le connais même pas. Il dit oui. Bon, il s'assoit. Bon, je connaissais un musicien dans ton église. Un jour, il m'a parlé de toi. Il m'a dit que tu étais son pasteur. Donc, vraiment, il a pris mon orgue. Il a disparu. Je le sais jusqu'aujourd'hui, je ne le vois pas. J'ai dit, moi, musicien, depuis quand vous avez fait votre business devant moi? Il dit, non, comme bon, il racontait sa vie. J'ai dit, mon frère, il faut quitter devant moi très vite. Quand vous faites vos affaires derrière, là, le pasteur n'est pas là. Et quand ça ne va pas, vous venez maintenant, pasteur, il y avait un frère dans ton église à qui il m'a dit, il est dans l'entrepreneuriat. Je lui ai donné 500 millions pour construire pour moi et il a disparu. Tu as 500 millions et puis je souffre comme ça pour avoir deux paquets de ciment. Deux paquets de ciment. Je ne vais même pas t'écouter. Même. Faut pas faire business avec les gens. Ce n'est pas tous les gens qui sont assis dans l'église qui sont chrétiens. Il y a plein de boucs. Je vous dévoile aujourd'hui. Votre gombo est terminé. Alléluia. Donc, il faut travailler. Il ne faut pas être négligent avec l'œuvre de Dieu. Amen. Sixième point. Non. La négligence est dans... J'ai dit, il faut te départir de l'esprit d'indépendance pour te rendre utile à l'œuvre. Donc, il faut travailler. Il ne faut pas être négligent. Il faut... C'est dans le cinquième point. C'est dans le cinquième point. Jérémie 48, 10, c'est le cinquième point. Maintenant, le sixième point. Prenez de nouvelles résolutions. Petite A. Sixième point. Prenez de nouvelles résolutions maintenant. Cinquième point. C'est le verset pour étayer le cinquième point. Sors de l'esprit d'indépendance pour t'intégrer dans l'ensemble. Travaille, sois utile à l'œuvre. Ne sois pas assis. Rends-toi utile. On ne peut pas être dans un ensemble et avoir son côté. Tu vas toujours être tenté à critiquer. Mais quand tu participes à l'œuvre, tu es comptable de l'œuvre, tu vas fermer ta bouche. Sixième point. Prenez de nouvelles résolutions. Petit A. Première résolution à prendre. Tu dois désormais retenir ce qui est bon dans les analyses que tu fais. Par exemple, mais dans un premier temps, ça sera mécanique. Mais après, ça va devenir une habitude. Tu n'es pas habitué. On te présente quelque chose ou on te demande de donner un point de vue sur quelque chose. Tu vas être tenté de regarder les mauvais côtés. Et puis quelque chose va te dire non, tu es dans un processus de changement. Alors, révise ta position rapidement et puis analyse globalement et dis c'était très bien. En tout cas, je te félicite, continue. Tu vois, ça peut être mécanique. Tu peux être tenté de dire bon, il y a le côté là qui n'est pas bien, il y a le côté qui n'est pas bien, le côté qui n'est pas bien. Mais on t'a demandé un point de vue parce que souvent les gens ont besoin de courage. Quand on les encourage pour dire c'est bon. Ça leur donne la force de recommencer et de se parfaire. Mais quand quelqu'un te montre quelque chose, puis tu casses déjà avec les mauvais côtés là, tu peux détruire son élan. Donc, ça peut être mécanique dans un premier temps. Il faut accepter que ce soit difficile pour toi. Ça va te faire mal de dire à quelqu'un ce qu'il a fait bon. Tu n'es pas habitué. Tu voulais le sonner, mais quelque chose te dit, bon, tu es en train de changer. Tu es chrétien. Tu dis, ah, je t'ai raté. J'allais te faire une analyse là. Je t'assure que tu allais abandonner tous tes projets. Donc, la première résolution, prends désormais la décision d'être positif. De bannir au fur et à mesure la négativité dans tes raisonnements, dans tout. Ça peut être difficile, mais tu dois prendre cette première résolution. Deuxième résolution, tu dois te dire que nul n'est parfait. Et que nous allons vers la perfection. La Bible dit, on va à la mesure de la statue parfaite de Christ. Donc, nous sommes un livre en écriture. Personne n'est achevé encore. Donc, naturellement, les œuvres que les gens posent, les actes, Il peut avoir des imperfections. C'est pas grave. Hein? C'est comme un enfant. Tu dis, je dis à mon fils, où il est même le petit là? Il est quelque part derrière là-bas. Je lui dis souvent, envoie-moi quelque chose. Il entend, il va courir. Dis, donne-moi un verre d'eau là. Il peut sortir du sable. Il va aller prendre le verre. Il va se débrouiller pour t'envoyer de l'eau. Mais tout joyeux, mais quand tu regardes le verre, là, le verre est sale même. Il a mis son doigt dedans pour tu sais. Il s'en fout. Mais c'est le geste. Tu ne dis pas, mais ton verre est sale. C'est quoi toutes ces histoires de saleté? Non. Il a voulu faire d'un bon cœur. Mais il est encore enfant. Il y a des choses qu'il ne comprend pas. Donc on laisse ça. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre que nous sommes tous en train de grandir. Et que ce n'est pas tout ce que tout le monde. Ça peut être imparfait. Mais on laisse tomber. On peut passer sur certaines choses et avancer. Est-ce capitaliser sur les forces? Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Donc ça, c'est des choses qu'il faut intégrer en soi-même pour te dire que nul n'est parfait, y compris moi. Tu comprends? Maintenant, les gens qui aiment parler des autres et qui aiment critiquer, souvent n'intègrent pas ça dans leur pensée, qu'eux-mêmes ne sont pas parfaits. Tu comprends? Mais si tu intègres dans ta pensée que moi-même je ne suis pas parfait et que je peux commettre des erreurs, tu seras plus tolérant avec les autres. Donc, c'est des idées que je vous donne pour cultiver. Ça se cultive. C'est des idées qui se cultivent. Je ne suis pas meilleur que les autres. On va tous vers la perfection. Quand on lit Philippiens 4, verset 13, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je pue tout par celui qui me fortifie. Donc, si toi, tu tiens debout, c'est grâce à Dieu. La Bible dit quoi? La Bible dit, celui qui est debout, qu'il fasse quoi? 1 Corinthiens 10, verset 12. Que celui qui marche ou qui est debout prenne garde à lui-même. Lis-moi ça. 1 Corinthiens. C'est important pour que les gens retiennent ça. Oui, vas-y. 1 Corinthiens 10, 12. Faut noter ça.
Ainsi donc, que celui qui croit être debout.
Que celui qui croit, ça veut dire ça là, il a étudié mon quoi. Ça veut dire toi tu crois que tu es debout. Ok. C'est bon. Vas-y.
Qu'il prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine.
C'est bon, on va s'arrêter là. Donc tu vois, que celui qui pense qu'il est debout, il prenne garde à lui-même. C'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours regarder aux autres la faute. Si tu penses que Dieu t'a fait grâce, il faut que tu reconnaisses que c'est purement la grâce de Dieu. Et que l'autre qui ne s'en sort pas là, l'autre qui n'arrive pas à faire les trucs là, ou qui fait mal là, ce n'est pas forcément sa faute. Et il faut être tolérant les uns envers les autres. Est-ce qu'on peut dire amen? Parce qu'on n'est pas tous les mêmes. On n'a pas été éduqués de la même façon. Il y a des gens qui sont comme ils sont. Il faut accepter. Sinon, nous, on ne peut pas être pasteur. Regardez comment vous êtes si différents. Mais je traite avec chacun dans sa différence. Mais la preuve, je suis le dernier recours. Tout ce monde que vous voyez ici, là, y compris Marc, partout, chacun dit non, le bishop, vraiment, moi, je le vois. Mais en fait, je suis obligé de régler dans les différences, de m'adapter à chaque différence. Mais ah, la sœur est trop bizarre. Pourquoi elle me parle comme ça? Mais tu es qui et puis on ne te parle pas comme ça? Pourquoi le gars me regarde comme ça? Pourquoi le gars me critique? Donc tu vois, à un moment donné, il faut savoir laisser tomber les choses. Aller à l'essentiel. Personne n'est rien sans Dieu. Nous sommes tout parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth qui est mort et ressuscité. Et cela doit te rendre un peu humble. Amen. Une autre idée. Je parle de nouvelles résolutions à prendre. Ici, c'est tu dois prendre la résolution également de fuir toute relation toxique. Si une relation est périmée, il ne faut pas prendre. Parce qu'il y a des relations périmées. C'est comme un comprimé périmé. Quelqu'un qui a tout. Chaque fois que tu es avec lui, il c'est critique, c'est bavardage. Il parle, sa bouche ne se ferme jamais. Il peut te raconter tout Abidjan. Quand il entre dans ta vie, c'est pour te dire, lui, il a fait ça, Paul a fait ça. Il connaît toutes les histoires d'Abidjan. Dans l'église, il y a des spécialistes. Ils sont ici, assis. Ils m'écoutent en ce moment. Il n'y a pas une histoire qu'ils ne savent pas. Ils connaissent Genèse de toutes les histoires. Il te dit, je prends le pasteur Ange, je le lave jusqu'à la fin. Je prends le frère Pierre. Ils connaissent l'histoire de tout le monde. Comment toi tu connais l'histoire de tout le monde? Tu sais ce qui se passe. Souvent moi je me suis surpris. On dit, ah, pasteur tu sais pas. Nous, on est dans l'église, on voit, ça murmure dans les petits coins. Les gens parlent, les gens, nous, on voit. Parce que nous, on ne peut pas, parce que nous, on est dans la foule. Je dis, ah bon? Bon, monsieur, sur l'église, là, les gens sont dans la foule, ils voient. Arrêtez de parler. Amen. Telle soeur, tu n'as pas appris. Tel frère, tu n'as pas appris. Ils sont au courant de tout ce qui se passe. Il faut que Dieu te guérisse. Un homme comme ça, il faut le fuir. S'il veut te parler, dis non, j'ai pas besoin d'entendre. Tu veux parler de qui? De l'église? C'est bon. Actuellement, là, j'ai d'autres choses à régler. Allez, que Dieu te bénisse. 1 Corinthiens 15, verset 33 est très clair. Les mauvaises compagnies. La Bible dit dans le psaume 1, verset 1, il dit, heureux celui qui ne s'assied pas avec quoi? En compagnie des moqueurs. Fuis les moqueurs. Fuis les gens qui parlent trop. Fuis les gens qui sont pour la rébellion. Fuis tous ceux qui ont un esprit de désunion, de dispute. Fuis-les. Fuis-les. Alors qu'il y a des chrétiens, c'est des gens comme ça, ils aiment. Tu vas parler 1000 fois, il dit, pasteur, parle, ce sont mes amis. Ok, continue d'être ami avec eux. Continue. Quelqu'un qui ne t'apporte pas, si ce n'est pas la critique. Une autre résolution que tu dois prendre, il faut refuser d'avoir un esprit de soupçon. Parce que les gens critiquent souvent beaucoup parce qu'ils ont un esprit soupçonneux. Ils soupçonnent tout. Ils voient quelqu'un dire, quand il prie, ses yeux sont comme ça. Pasteur, il n'est pas bizarre? Tu vois un gars qui a les yeux rouges. Tu dis, mais c'est un soulard. Mais frère, il peut avoir mal aux yeux. Tu n'as jamais vu devant une bière. Tu dis, le gars là, c'est un soulard. Mais regarde ses yeux. Mes yeux là, ça peut être conjonctivite. L'esprit de soupçon. Ça dit, c'est un mauvais esprit. Parce que quand tu l'as, facilement, tu soupçonnes les gens. Il dit aujourd'hui, tu peux voir quelqu'un, c'est comme un jour, il y a un pasteur qui est venu, il a fait un séminaire, et puis, il y a très longtemps, et puis il a porté un truc comme ça, un boubou, mais qui est un boubou un peu bizarre. Il y en a qui dit, pasteur, tu es sûr que ce boubou-là est normal. Et malheureusement, le gars, c'était un ancien sorcier converti, devenu pasteur. Et il ne fait aucun effort, le boubou qu'il a porté. Automatiquement, j'ai dit, pasteur, le boubou là, tu es sûr que le gars est délivré? Ah, c'est un boubou de féticheur. Tu as des boubous un peu comme ça, tu vois, avec gonflé, j'ai dit, man. Donc, tu vois, quand quelqu'un a un esprit qui est fertile, il faut faire très attention. Parce que tout ce que tu fais comme erreur devant lui, il prend ça et puis te critique. Il prend ça et dit non, tu n'es pas clair. Et puis t'affecte quelque chose. Donc il faut faire très attention à laisser le soupçon. Il faut toujours dans ta vie accorder du crédit aux gens. Je vous assure. Si tu ne fais pas ça, tu ne pourras pas vivre bien. Parce qu'à chaque fois, si tu n'es pas prêt à accorder, parce qu'il faut pouvoir faire confiance à quelqu'un un jour. Même si on dit qu'il a été ça avant, tu dis ok, je lui accorde un minimum de crédit pour cette fois-ci pour voir. Oui, s'il n'y a pas de crédit, il y a toujours l'esprit de soupçon. Il est venu s'asseoir. Il toussait. On m'a dit, quand quelqu'un tousse dans ton bureau comme ça, quand il rentre, et puis la première chose qu'il fait, c'est tousser, il doit être sorcier. Parce que, en fait, le vrai problème, je vais vous dire, beaucoup de pasteurs n'ont pas facilité la tâche à beaucoup de frères. Les enseignements de comment reconnaître un sorcier, comment reconnaître Satan, il est vaincu. Donc, il y a des gens qui aiment bien des gens d'enseignement comme ça. Et on leur explique des choses qui ne sont pas objectives, mais qui sont subjectives. Parce que, je vous dis, quelqu'un qui a fait la sorcellerie, et qui vient vous dire, voilà comment on reconnaît un sorcier. C'est ce qu'il dit là, ce n'est pas la vérité dans l'absolu. C'est son expérience. Dans la sorcellerie, quand j'étais allé, il va vous dire par exemple, quand j'étais allé sous terre, j'ai vu des bijoux. Donc, les bijoux là, Satan aime les bijoux. Quand une femme porte les bijoux, ce n'est pas bon. Ou bien, c'est-à-dire, ce qui a été son esprit. Parce que si tu as un problème, si Dieu veut te délivrer, ça devient ton expérience. Par exemple, si tu étais attaché au bijou, quand tu étais inconverti, si Dieu veut juste te délivrer de ça, pas parce que c'est mauvais, mais parce que tu avais un cœur qui était dedans, tu vas venir, vraiment, moi, pour que je sois délivré, j'ai dû vraiment abandonner tous mes bijoux. Mais ça, c'est ton expérience. Quelqu'un d'autre peut porter les bijoux et ne pas avoir son cœur dedans. Donc ne dis pas que mon expérience est établie comme une vérité biblique. Donc les gens, ils vont, ils écoutent ces choses-là. On dit non, quand quelqu'un dans ton bureau, dans ta maison, s'il va directement au WC pour pisser, c'est un sorcier. J'ai vu ça dans des livres. Donc les gens récupèrent des informations comme ça et ils sont là, ils sont soupçonneux de tout. Tu vois, même quand tu parles, on va dire, vous voyez, quand... Il y a même, ils ont fait un documentaire il n'y a pas longtemps là, des trucs bêtes. Les gens parlent, on dit, parce qu'ils parlent, ils font leurs mains comme ça, on dit, tu vois, c'est des antichrist. Et ils photographient la main de tous les dirigeants du monde qui parlent, qui font comme ça. Tu vois, ça, il est en train de... Et ils ont photographié tous les dirigeants du monde là. J'ai dit, mais en parlant, tu peux faire comme ça même sans t'en rendre compte. Mais comme ils sont soupçonneux et ils veulent forcément... À un moment donné, tu es obligé de dire, bon, écoute, fais attention parce qu'on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut faire très attention à toutes ces choses-là. Ça détruit la mentalité, ça détruit la foi. Ta foi doit être pure. Une foi basée sur la parole, uniquement la parole. Ce que la parole de Dieu n'a pas dit, ce n'est pas vrai. C'est subjectif comme vérité. C'est tout. Alléluia. Sinon, tu vas tomber dans la critique facile. Soupçonner les gens. On est tous, toutes les femmes qui font coupe de cheveux. Et puis elles mettraient au milieu comme ça là. C'est l'esprit de Jézabel. Quand ils sont dans l'église, ils sont là, ils sont assis, ils sont là, et puis guettent. Il y a une tante, tu vois, ces deux cheveux là descendent comme ça. Elle a coupé au milieu, puis ça descend comme ça, comme la sirène des eaux, tu vois, non? La pauvre femme qui n'a rien à voir. On la soupçonne en même temps. Dès qu'elle vient, dit pasteur, vraiment, je voulais avoir un entretien avec toi. Qu'elle est partie. Pasteur, il y a des esprits dans l'église. Des esprits, fais attention. Dieu va te délivrer à BMC. Ce n'est pas bon. Le soupçon, il faut sortir de ça, sinon tu vas trop critiquer. On termine. Dernier point. Cultive l'amour de Dieu dans ton cœur. Cultive l'amour par rapport à tes frères. Aime-les. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres. Lis-moi Jean 15, verset 12. Oui.
C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses Amen. Amis.
C'est tout. Aimez-vous les uns les autres. Cultive l'amour vis-à-vis de tes frères et sœurs. Tu peux ne pas les connaître, mais aime-les. Tu peux ne pas, ils peuvent ne pas être de ta famille, aime-les. Parce que c'est des hommes qui sont sortis d'un ventre. Il y a quelqu'un aussi qui les aime dans la vie là. Il n'y a personne qui n'est pas aimable. Non, je ne peux jamais aimer cette soeur. Je ne peux jamais aimer ce frère. C'est un langage que tu dois bannir de ta bouche. Tu dois aimer les gens tels qu'ils sont. Ce que je vous enseigne, c'est ça la Bible. Hein? Et c'est ça qui empêche beaucoup de gens d'expérimenter le miraculeux. Ils pensent que c'est des grosses, des grandes choses. Oui, les esprits générationnels de famille qui nous empêchent. C'est pas ça. Souvent, ce n'est même pas ça. C'est des choses élémentaires. C'est sur lesquelles Satan se tient. Aime les gens. Ouvre ton cœur. Commence à travailler dans l'amour. Aime les gens. Tu vas voir. L'amour couvre une multitude de péchés. Dieu va te faire grâce. Et Dieu va te faire faveur. Tu vas devenir comme un ange. Tout le monde va courir pour venir vers toi parce qu'auprès de toi, il y a la vie. Auprès de toi, il y a la paix, il y a la tranquillité. Les gens, quand ils sont avec toi, ils sont en sécurité parce qu'ils n'ont pas peur que leur vie sera dehors. Ils n'ont pas peur qu'on va les juger sur ce qu'ils sont. Parce que le vrai problème, c'est ça. Les gens ont peur d'être jugés sur leur valeur, sur ce qu'ils sont. Ce n'est pas facile. C'est pourquoi les hommes cherchent des gens bien. Vers qui aller? Avec qui parler? Sois bien! On va prier le Seigneur. Est-ce que tu peux te lever ce matin? Lève les mains vers le ciel.
Merci.
Je veux que tu fasses.
Si vous êtes béni, vous pouvez nous contacter aux adresses suivantes. 09 13 22 75 06 29 35 46 Alliance Biblique m@gmail.com www.abmci.net Que Dieu vous bénisse.